Bonsoir à tous. Merci d'être là pour notre session d'avant Noël. Nous sommes toujours donc dans Chair, Corps, Monde. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions vu The Way of All Flesh, comme dit le titre du roman de Butler, le chemin de toute chair, la voie de toute chair, pour reprendre une expression que l'on trouve dans la Genèse. Et voilà que le premier texte sur lequel nous allons un peu nous attarder, je pensais d'ailleurs que c'était le seul qui était au programme ce soir, le prologue de Saint Jean, qui est un morceau d'anthologie théologique et littéraire, voilà que ce prologue nous dit quelque chose de tout à fait inouï, à savoir que ce chemin de toute chair, chemin de fragilité, de finitude, est celui que choisit le Verbe de Dieu, que choisit le Logos. Donc il s'agit du premier chapitre de Saint Jean. Vous savez, les textes que nous étudions, tous ces textes bibliques, les textes de l'Évangile, sont souvent des textes un peu voilés. Nous croyons les connaître, les comprendre. C'est vrai, souvent d'ailleurs, des récits les plus simples, les récits de la Nativité, sont des textes voilés qui demandent tout un travail de l'œil intérieur pour entrer dans la dynamique de leur signification. Alors ici, il s'agit d'un texte, ce prologue de Jean, un texte saturé parce que il nous met face à la contemplation du mystère du salut dès le début, dès le seuil de son évangile. La tradition, vous le savez sans doute, a comparé Saint Jean à un aigle. Parmi les quatre vivants, il est l'aigle parce qu'il est celui qui a scruté l'intimité de Dieu, qui est allé le plus loin dans la compréhension de l'identité de Dieu. Alors, qui était ce Jean? Il y a tout un dossier exégétique autour de Jean. Est-il l'apôtre? Est-il un ancien disciple du Baptiste? Puisque on sent dans tout l'Évangile un besoin de montrer que les disciples de Jésus, à un moment donné, se sont séparés du Baptiste. Ils ont trouvé un autre maître, y compris dans le prologue. Vous allez voir, la figure de Jean le Baptiste apparaît. Peut-être de manière un peu polémique d'ailleurs, pour rappeler que les disciples du Baptiste, qui existaient encore, hein, après la mort de Jésus, il y avait encore des disciples du Baptiste, il y en a eu tout au long du 1er siècle.
Non, il en existe encore maintenant.
Tout à fait, les Mandéens, bien sûr. Et donc, probablement, il faut voir dans le texte la trace d'une séparation progressive, sûrement assez conflictuelle d'ailleurs, polémique, peut-être violente, avec les disciples du Baptiste. Alors, Saint Jean est souvent représenté comme étant l'un des fils de Zébédée. Vous savez que Jésus avait trois disciples, trois apôtres préférés. Pierre, qui serait mort au cours de la persécution de 64. Jacques, l'autre fils de Zébédée, qui meurt très, très vite, puisqu'on en parle dans les Actes des Apôtres. Donc, on a pensé que le disciple que Jésus aimait ne pouvait être autre que Jean, qui d'ailleurs n'est pas cité. Donc, on a fait l'équation, peut-être un peu trop rapidement, à vrai dire, sur la foi de témoignages du IIe siècle, de Papias, d'Hiéropolis, etc. On s'est demandé s'il n'y avait pas un troisième Jean, qui serait Jean le presbytre. Le presbytre, c'est-à-dire le prêtre. Et qui serait, qui appartiendrait au milieu éphésien, milieu donc d'helléniste, qui accoucheront aussi de la gnose, etc. Donc, pour vous dire que l'identité de l'évangéliste, voilà, n'est pas absolument certaine, ça n'est pas un dossier clos. On peut y voir bien sûr l'apôtre. On peut y voir, en tout cas, ce qui me semble le plus vraisemblable, un texte écrit à la fin du 1er siècle, dans la mouvance du témoignage d'un des apôtres. l'autorité qui est garante du texte, puisque c'est le sens du mot auteur, hein, auctor en latin, c'est une instance qui peut être collective, en tout cas l'autorité de ceux qui disent que le témoignage est vrai et qui attestent que le témoignage est vrai. Hein. Vous savez que cette expression apparaît plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Cette instance, probablement, essaie de valider le témoignage de quelqu'un qui a vécu dans l'entourage immédiat de Jésus. Voilà. Quant à savoir si c'est Jean, le fils de Zébédée, ça n'est pas forcément facile à démontrer. Voilà. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que cet évangile est écrit dans les milieux éphésiens, qui sont des milieux nourris de philosophie grecque. Et ce qui frappe beaucoup pour ce quatrième évangile, qui est écrit à la fin du premier siècle, c'est qu'il est, il est très indépendant. Il n'est pas du tout dépendant, en tout cas, des trois évangiles précédents. Vous savez qu'on les appelait les autres, les synoptiques, parce qu'on peut tisser entre eux des correspondances. Donc il y a un plan relativement commun. Et ce plan, ni Matthieu, ni Marc, ni Luc ne l'a élaboré vraiment. Probablement se sentait-il tenu par une tradition orale qui obligeait. Et donc, ils écrivaient leurs variations en fonction d'un auditoire donné, et en fonction des attentes d'un auditoire donné, de la culture d'un auditoire donné, mais sans s'éloigner d'un canevas qui est identique. Or, Jean prend toute liberté. Il écrit un évangile. Il fait vraiment œuvre, justement, auctoriale, c'est-à-dire il fait œuvre d'auteur. Que cet auteur soit collectif ou unique. Et ça, c'est très frappant. Donc, il y a un acte de liberté, 30 ans après les autres évangiles, qui est posé. Et cet acte, introduit, donc, probablement dans le canon biblique, le dernier texte, c'est probablement le dernier texte qui sera canonisé par les églises. Et c'est un évangile d'un style tout à fait différent. Il aurait pu faire des émules, d'une certaine manière, il aurait pu aussi avoir ses synoptiques, mais il est unique, il est là comme une sorte de monolithe absolument fascinant. Et donc c'est cet évangile qui commence par la fameuse méditation sur le logos.
Alors, sur ce que tu dis, c'est intéressant. Sur le texte voilé, je crois qu'ils nous apparaissent comme voilés, mais ils ne le sont pas. C'est-à-dire, c'est pas une
J'espère.
gnose, justement. C'est-à-dire, c'est pas du langage codé. C'est pas, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de langage réservé aux initiés. C'est simplement, si vous voulez, on ne connaît pas forcément dans la même culture, tout à fait dans la même culture, tout à fait dans la même façon de penser. Et en particulier, Jean est peut-être plus proche de ce. Bizarrement, bon, ça paraît un peu compliqué comme ça, comme texte, mais ça paraît plus proche de notre façon de penser actuelle, où voilà, on fait un discours sur Dieu, un discours sur le salut. Ça, finalement, on a plus l'habitude de mouliner ce genre de choses. Alors que dans le reste de la Bible, bon, alors ça, on retrouve finalement ce genre ce genre littéraire, du prologue, finalement. Peut-être moins poétique, mais quand même avec une élaboration intellectuelle sur ce que c'est que le salut, sur Dieu, sur le Christ. On peut retrouver ça chez l'apôtre Paul, par exemple. Mais dans les évangiles, les autres évangiles, les évangiles synoptiques, dans le reste de l'évangile selon Jean, dans tout le reste de la Bible, il n'y a pas ce genre de discours. Il n'y a pas un discours sur Dieu dans l'Ancien Testament, ni même dans la bouche de Jésus, si vous voulez. Ce n'est pas la façon ni de penser, ni de s'exprimer. On parle de Dieu en racontant des histoires. C'est-à-dire qu'on inscrit Dieu dans ses actes, dans sa façon d'être. Alors il y a quelques textes, par exemple, il y a un développement sur par exemple, les 10 paroles, les 10 commandements. Bon, là, oui, il y a un peu une élaboration d'un code finalement moral, religieux, mais c'est déjà assez rare. Dans la bouche de Jésus-Christ, c'est pas tellement non plus le style du bonhomme. Alors pourquoi, si vous voulez, c'est comme dit Confucius, si vous voulez. Si vous avez un homme qui a faim, vous lui donnez du poisson, il va vivre une journée. Si vous lui donnez une canne à pêche, il n'aura plus jamais faim toute sa vie. C'est un peu l'idée, si vous voulez, de cela, c'est que quand on exprime Dieu à travers des récits, l'objectif, c'est de nous faire découvrir un Dieu qui nous accompagne, un Dieu vivant, un Dieu qui intervient dans l'histoire, qui intervient dans notre histoire. Alors que quand on fait un discours sur Dieu, ça peut rester moins incarné. Enfin, je dis ça un peu parce que c'est le sujet du jour. Mais ça paraît moins incarné, ça peut rester très cérébral. Or, l'Évangile veut s'inscrire dans la vie, finalement. Veut s'inscrire dans notre existence, dans notre vie. Donc, ces récits sont faits pour que ça s'incarne. Alors, on pourrait comparer, comme tu le dis, les synoptiques avec l'Évangile selon Jean pour leur commencement. Là, on nous parle finalement de la venue du Christ. Si on compare avec l'Évangile de Noël, que je ne sais pas, voilà, si vous lisez toujours l'Évangile selon Luc pour Noël, mais bon, comme c'est le seul qui parle de la crèche, tout bien, on a quand même tendance à plutôt lire ça, quoi, non, le 24 au soir.
Le 24 au soir, oui, et le jour de Noël, on lit le prologue de Jean.
Ah oui, d'accord. Oui. Donc, c'est vrai qu'on peut mettre en parallèle les deux, parce que les deux parlent de la même chose, et il y a deux façons de parler différentes. Donc là, on nous parle, voilà, du verbe qui se fait chair. On dit que c'est pas une question au verset 13, bon, on va le lire, hein, mais c'est pas d'un vouloir de la chair, c'est pas né du sang, etc. Donc en fait, c'est pas une polémique contre l'Évangile selon Luc qui dit que Jésus, pour être fils de Dieu, doit naître par une conception miraculeuse, donc par un miracle gynécologique, si vous voulez. C'est pas du tout la question. Parce que l'Évangile selon Luc ne parle pas de ça non plus. Il parle de la même chose qu'ici. Il parle de comment est-ce que la parole peut prendre chair dans l'humain que nous sommes, dans l'humanité dont nous sommes des échantillons. C'est ça dont parle et le prologue de Jean et le récit de l'Annonciation et de Bethléem, si vous voulez. Ça parle de la même chose, mais sur des modes littéraires différents. Enfin, je ne veux pas casser le mythe, mais parce qu'on peut très bien vouloir conserver néanmoins la réalité physique, gynécologique de la conception miraculeuse de Jésus, si vous voulez. Mais c'est un autre débat, c'est un débat historique qui concerne, j'allais dire, plutôt Marie que nous. Mais en tout cas, ce que nous dit ce récit de l'Évangile selon Luc, à mon avis, c'est la même chose que le prologue de Jean, c'est de savoir comment est-ce que Dieu envoie son salut, nous envoie son salut en Jésus-Christ, et comment cette parole peut prendre chair dans notre existence. Alors, est-ce que c'est plus clair pour nous avec un mode... j'allais dire théologico-poétique comme Jean, pas si sûr. Est-ce que c'est plus clair avec le langage narratif de Luc? Pas si sûr. Parce que dans les deux, il y a du dévoilement, il y a une interpellation, c'est-à-dire c'est une interpellation pour qu'on s'ouvre à ce quelque chose qui vient de Dieu et qu'on dise le oui de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Ou alors ici, on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais est-ce qu'on va choisir ou non on en a le pouvoir, c'est un don de Dieu, mais ensuite, bon, il y a encore du boulot à faire. Donc, est-ce qu'on s'ouvre à cette dynamique? Lequel des deux va être le plus efficace, finalement, pour notre ouverture à cette incarnation de la parole de Dieu dans notre existence, dans notre être, dans notre humanité? Mais je ne sais pas. Parce que les deux voiles, finalement, si vous voulez.
Quoi ? Ils ne s'intéressent peut-être pas à la même clientèle.
Ils s'intéressent, comme le disait Jérôme, peut-être pas Luc, tout à fait au même public. Hein.
Luc, c'est plus factuel que Jean, qui est beaucoup plus intellectuel.
Mais est-ce que c'est factuel ? Je ne sais pas, si vous voulez. Est-ce que c'est factuel, l'histoire de la conception, j'allais dire gynécologiquement, biologiquement, génétiquement, par la chair et le sang.
C'est une tradition d'à peu près toutes les religions de l'époque, de toute façon.
C'est parce que c'est un genre narratif courant. Mais il ne faut pas forcément dire bon, c'est du bidonnage, ils ont voulu faire du miraculeux pour nous en fiche plein la gueule, plein la vue. C'est pas du tout la question, si vous voulez. Pour dire, ah, on va faire une belle histoire, comme ça, ça montrer, voilà, il y a du divin, c'est du miraculeux, c'est... On tombe par terre devant quelque chose d'impossible et de jamais vu, non, parce que, comme vous dites, c'était pas du jamais vu, il y a plein d'histoires comme ça, mais je crois pas que ce soit ça dont on parle. Je crois qu'ils essayent de nous dire... Alors, si vous voulez, c'est vrai que le premier, avec le miraculeux, on peut s'arrêter, je veux dire, à la question, au détail, j'allais dire, physico-pratique. Et ne pas y voir tout l'intérêt pour la personne, pour nous, pour le lecteur, de ce récit d'incarnation de la parole de Dieu en Marie. Et puis, alors, bon, ça, c'est le premier risque de voile, finalement. Mais pour Jean, le risque du voile, c'est que ça reste très, très intellectuel, qu'on sache tout du Verbe de Dieu, de l'incarnation du Verbe, de la procession des hypostases et je ne sais pas quoi d'autre, et puis que finalement, ben on... oui, ça nous intéresse beaucoup, mais que ça ne prenne pas du tout cher dans notre existence. C'est ça la question. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace pour transformer notre existence, recevoir cette dynamique de salut que Dieu envoie en Christ? C'est la question. Ça dépend des gens. C'est pour ça qu'on a le droit d'avoir un évangile préféré ou l'autre. Mais l'avantage d'avoir cette variété, c'est aussi que aucune des leçons n'est absolue, du coup. Toutes les leçons se complètent. C'est que si on lit Luc, il faut le lire à l'image de Jean. Et si on lit Jean, on peut le lire à l'image de Luc.
Ça dépend peut-être de l'âge aussi. Les enfants vont suivre davantage Luc que Jean.
Ça, c'est vrai.
Quand on leur présente.
Oui, mais ça peut leur voiler.
Ah ben après, il faut qu'évidemment ça se... pour ça que je pense que c'est plutôt... Les deux évangiles, je dirais, s'adressent à des âges différents de l'évolution interne personnelle.
C'est bien possible.
Luc accroche au départ les jeunes qui sont en catéchèse, par exemple. Davantage, je pense, que Jean, qui est beaucoup plus métaphysique, beaucoup plus intellectuel que Luc... Et plus tard, ils vont approfondir avec justement les interprétations et les explications de Jean.
Oui, je comprends bien. Si ce n'est quand même que les deux textes ont été maintenus dans la liturgie, hein, les fameuses trois messes de la nuit, de l'aurore et du jour, au Moyen-Âge, comme à la Renaissance, comme au XIXe siècle, comme aujourd'hui, l'évangile du jour, c'est le prologue de Jean. Alors, de fait, peut-être parce que le caractère spéculatif, effectivement, est évident, on a pu y plaquer une imagerie qui est l'imagerie de Noël. Par exemple, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Moi, je me souviens que quand on me racontait Noël, quand j'étais enfant, la fameuse phrase de Luc, ils ne trouvèrent pas de place à l'hôtellerie, bon... On développait, et donc on imaginait le froid de l'hiver, évidemment, parce qu'on est en plus en Europe, et puis on voyait les gens qui fermaient leurs portes, et il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et effectivement, et cette image ne vient pas de Luc, elle vient de Jean. Donc on a un petit peu lu le prologue à travers une imagerie de Noël populaire, qui est très très belle d'ailleurs. Le père Xavier Léon Dufour, le grand spécialiste de Jean, disait que le prologue de Jean, c'est une théologie narrative. Et il y a quelque chose de narratif. Ce n'est pas uniquement la contemplation des processions et de la péricorèse des personnes. Je pense qu'il y a quelque chose... C'est d'ailleurs le cas de tout l'évangile de Jean, qui est souvent beaucoup plus concret. C'est très étonnant. Il y a ce passage où on voit Jésus qui fait les 100 pas sous la colonnade de Salomon. Il se frotte les mains parce qu'il fait froid, c'est l'hiver, etc. On ne voit pas ça chez les synoptiques. Il est souvent plus concret, étonnamment, hein. Il tient les deux, voilà, il tient les deux, c'est vraiment le poète de l'incarnation, c'est celui où on voit Jésus fatigué sur la margelle du puits, c'est l'évangile où on voit Jésus pleurer Lazare, etc. C'est très étonnant, c'est à la fois plus incarné et plus spéculatif, mais en fait, parce que c'est pas ou bien, c'est vraiment et, c'est cette coordination de l'humain et du divin qui passionne Jean. Alors, Je me permets d'y insister parce que j'évoquais le milieu littéraire et philosophique, qui est un milieu donc éphésien. Et le milieu éphésien est un milieu très marqué à la fin du 1er siècle par la gnose qui apparaît. La gnose, c'est le refus de l'incarnation, précisément. C'est l'incapacité de penser l'incarnation. Donc c'est la fuite, là, pour le coup, dans la spéculation pure, ce que ne fait pas Jean. Jean est quelqu'un qui s'adresse à des gens tentés par les gnostiques, un peu comme aujourd'hui, quelqu'un qui s'adresserait à des gens tentés par le New Age, par exemple, mais qui voudrait, en parlant des énergies, des chakras, que sais-je encore, qui voudrait les ramener à l'incarnation. Et c'est ça qui est très frappant. C'est pour ça qu'il parle du logos. Parce que le logos, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui a une culture philosophique du 1er siècle? Moi, je vois trois sources. Il y a une source grecque qui vient d'Héraclite. Héraclite, c'est le penseur du devenir. Tout est en flux. Et le principe unificateur, c'est le feu. Et le feu, chez Héraclite, c'est aussi le logos. C'est le lien. C'est ce qui tient, finalement, les phénomènes. Là où on serait tenté de ne voir que de l'absurde ou des choses incohérentes, pour Héraclite, il y a un desmos, comme disent les Grecs, c'est-à-dire il y a un lien qui tient le monde, qui tient tout l'univers créé. Et c'est le logos. Vous avez ça aussi chez les stoïciens, c'est une deuxième référence, c'est une source très importante, où le logos est presque l'âme du monde, c'est le principe organisateur, unificateur, qui sert aussi de lien, précisément. Et puis, vous avez... dans les textes, alors pour le coup hébraïques cette fois, les textes de la sagesse d'Israël, vous avez la Sophia, vous savez, c'est-à-dire la sagesse qui danse avec Dieu. Et on a vu souvent dans la Sophia une annonce de la deuxième personne trinitaire, etc. Et la Sophia est de plus en plus confondue et superposée au Logos à cette époque-là, au 1er siècle. Donc vous voyez, il y a Héraclite, il y a les stoïciens, il y a les textes de la sagesse biblique, donc c'est quand même des références prestigieuses. Et on voit bien que Saint Jean, lorsqu'il parle du Logos, il a tout ça en tête. Et surtout, alors je suis allé vérifier parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais il y a Philon d'Alexandrie. Et Philon d'Alexandrie écrit au 1er siècle, précisément, à l'époque de Jésus d'ailleurs, et Philon d'Alexandrie a tendance un peu à... j'ai envie de dire, à avilir la notion de logos en basculant justement dans la gnose. C'est-à-dire que, comme il est sous influence platonicienne, vous savez, chez Platon, on distingue le monde intelligible et le monde sensible. Alors, Philon pense qu'il y a une sorte de Dieu, qui est le bien, etc., qui est en amont de l'intelligible et du sensible. Il y a le cosmos, qui est le monde sensible, et entre les deux, il y a ce monde intermédiaire qui serait le monde des idées, le monde intelligible. Et il en fait le monde du logos. Et il fait du logos une divinité intermédiaire, c'est-à-dire une sorte de demi-dieu. Ce que les chrétiens ont toujours refusé de faire de Jésus. Jésus n'est pas un intermédiaire. Sa médiation vient du fait qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme, et non pas d'être à moitié Dieu et à moitié homme. Et je pense que derrière ce prologue de Jean, c'est ça qui est derrière. C'est qu'il veut montrer que dès le début, c'est la question de la préexistence au fond, hein, du Fils. Dès le début, le Fils est, il est le Logos, et ça n'est pas une sorte d'intermédiaire sur le podium olympique là entre. C'est une réalité qui participe pleinement et du divin et de l'humain, et qui n'est pas à moitié l'une et à moitié l'autre. Et ça, je pense que c'est l'enjeu théologique, hein, à la fin du 1er siècle, parce que les disciples sont de plus en plus exposés, et ça va durer 4 siècles, parce que la gnose, ça dure plusieurs siècles. C'est-à-dire un refus de l'incarnation, un refus de penser Dieu dans la voie de toute chair. Parce que ça n'est pas possible pour un grec de penser l'incarnation. L'idée que Dieu est le vivant, le plus vivant en moi, qu'il est plus près de moi que ma veine jugulaire, d'une certaine manière, que ma carotide, qu'il est plus vivant en moi que le sang qui bat dans mes veines, ça c'est la nouveauté chrétienne. Et il a fallu un effort intellectuel pour le penser, et au moment où on le pense, il faut dire que c'est une révélation, que c'est Dieu qui choisit, que c'est pas nous qui spéculons, mais que c'est Dieu qui se manifeste comme ça. C'est pour ça que le texte est fou. C'est-à-dire que le texte est à la fois la synthèse de la recherche théologique de l'époque, et en même temps, il s'incline en disant, tout ça, c'est pas nous qui le découvrons, C'est Dieu lui-même qui vient à nous et qui vient à nous comme ça. Alors, je me suis un peu passionné pour Philon d'Alexandrie cet après-midi. C'est pour ça que j'ai découvert à quel point le Logos était une image ambiguë, équivoque et spécieuse pour un auditeur de l'époque. Bon, on va peut-être lire le texte quand même parce que...
Non, mais quand même sur cette histoire de Logos et de Verbe, on va le voir assez rapidement. Là. Dès les premiers versets, c'est-à-dire c'est vraiment un midrash de Genèse 1.
Bien sûr.
Et donc la parole, c'est d'abord avant d'être... des logos, donc de la philosophie grecque ou des philosophies grecques ou le logos de la sagesse personnifiée qu'on peut trouver dans le livre, par exemple, des proverbes ou de la sagesse, à mon avis, c'est d'abord ça, c'est d'abord le amar de Dieu, si vous voulez, vraiment,
le dabar.
Je crois pas que ce soit dabar, parce que dabar, c'est plus les paroles des dix paroles, les paroles du commandement, la parole de la révélation. Or là, c'est la parole créatrice, c'est plus la parole créatrice que la parole du commandement. C'est pas une parole de révélation, c'est une parole de création, c'est une parole créatrice. Et ça, c'est vraiment le thème donc de Genèse 1. Et donc, quand il commence comme ça, ça dit à la fois quelque chose, je crois, sur la beauté du monde, c'est-à-dire, et sur le Christ, et sur la venue du Christ. Ça dit à la fois des deux, en comparant les deux, en mettant les deux finalement comme étant les deux étapes ou les deux tomes de la création de Dieu, deux tomes, il n'y aurait que deux tomes finalement, il n'y a pas un troisième tome qui serait la dernière venue finale du Christ ou je ne sais pas quoi. Là, à mon avis, on est plus dans l'idée, il n'y a que deux tomes. Le premier, c'est la création du monde matériel, béni par Dieu en Genèse 1. Le deuxième, c'est ce qu'on va lire là, c'est... l'irruption de quelque chose de neuf, mais qui est la deuxième étape et l'étape ultime de cette création. Mais finalement, l'un parachevant l'autre, et déjà en faisant un midrash de Genèse 1, donc de la création du monde, ça dit déjà l'incarnation, finalement. Ça dit déjà la bonté d'abord de ce monde. Ça dit aussi l'importance inouïe de l'événement de Jésus de Nazareth, qui est pour Jean un événement aussi important que le début de la création de l'univers. Voilà. Mais inversement, ça dit que le début de la création de l'univers, c'est aussi beau et aussi indispensable et aussi élevé et bon que la venue de Jésus, de l'incarnation du Verbe. Donc ça dit quelque chose et de la bonté du monde... et de l'inouï de la venue de Jésus. C'est pas juste une anecdote, quoi. C'est pas juste un prophète de plus, un peu mieux, un peu plus luxe, version 2.0. C'est... non. C'est un événement immense. Et moi, le Verbe, j'y verrais bien ça, finalement, la parole créatrice de Dieu qu'on a dans Genèse 1. Et c'est en ce sens que... on n'est pas très loin, effectivement, de l'esprit... c'est pour ça qu'on avait mis d'ailleurs Jean 3, mais c'est qu'effectivement, on voit bien qu'entre la parole et l'esprit, parce que l'esprit de Dieu, c'est aussi le dynamisme créateur de Dieu, comme la parole finalement, et tout ça est très, très lié. Alors peut-être on va lire quand même ce texte, parce que sinon, à force d'en parler,
oui.
On ne l'aura même pas
Alors,
lu.
Je pense qu'il s'agit de la traduction œcuménique de la Bible... parce que j'avais demandé à Maïré de prendre dans ses traductions. En même temps, je suis un peu étonné.
Non, c'est pas la traduction.
Que voilà. Non. Alors, je ne sais pas où elle a pu prendre ça. Traduction un peu étonnante d'ailleurs. Donc, au commencement de toute chose, c'est bien en arché en logos. Hein, au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu.
C'est de la parole, c'est du français courant.
Oui.
Ou c'est quoi ça?
Écoutez, je pense qu'elle n'a pas dû. La fin de trimestre doit être un peu présente et faire sentir sa fatigue et elle n'a pas dû aller à la bonne source. Mais ça a l'air intéressant. C'est toujours intéressant d'entendre un texte autrement. Voilà, donc. En tout cas, ça commence par le commencement. Donc on est à peu près dans. Voilà.
On s'est bien parti.
Ça oui, allez-y, bien. Si vous voulez. Ça, c'est laquelle, ça?
C'est la tobe.
Alors, lisez juste le début.
Bien,
bah, lisez peut-être...
Lisez toute la tobe, ça sera
voilà.
Bien.
Voilà, et puis on va suivre avec...
Le commencement était le Verbe, le Verbe était Dieu, et le
Père était Dieu. Il est au commencement son éternel Dieu, il fut par lui, rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point compris. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, et en venant dans le monde, il unit tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir de l'homme, d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que fut une plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame, voici celui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi il était. De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Et si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé.
Merci beaucoup. Vous avez vu que, donc, et verbum caro factum est, comme on dit en latin, et le Verbe s'est fait chair, devient ici, au verset 14, celui qui est la parole est devenu un homme. Ce qui n'est pas idiot, parce que la chair, chez Jean, c'est la condition humaine. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de connotation, comme chez saint Paul, on l'avait déjà vu. Chez saint Paul, vous savez, la chair s'oppose à l'esprit, et la chair est... manifestation des tendances égoïstes, au fond. La chair est toujours, chez saint Paul, une manière égoïste de vivre dans son propre corps. Donc on vit selon la chair ou selon l'esprit, chez saint Paul. Chez Jean, la chair, c'est la condition humaine, peut-être pas au sens de Malraux, mais en tout cas, une chair qui est déterminée et affectée par des appartenances culturelles, biologiques, sociales, etc.
C'est comme en hébreu, d'ailleurs, c'est un hébraïsme.
C'est un hébraïsme,
tout à fait. Quand Isaïe dit « toute chair reconnaîtra le nom de l'Éternel », c'est toute personne vivante, hein, toute personne humaine, c'est pas la viande. Hein.
Bien sûr. Oui. Alors, au commencement de toute chose, effectivement, donc au commencement, bien sûr, c'est une reprise, je suis d'accord, et effectivement, il y a deux tomes. C'est la nouvelle alliance, c'est la possibilité de renaître et de refonder tout, de se revivre comme étant en Genèse. L'être humain, la personne, le sujet n'est jamais fini, n'est jamais clos, quels que soient ses préjugés ou ses illusions. Il est toujours en Genèse, c'est ce que Noël nous donne de revivre et de célébrer. Et donc, il s'agit effectivement d'un recommencement, au fond. Donc, enarché, en grec on dit enarché, donc dans l'arché, l'arché c'est ce qui est donc archaïque, hein, ce qui est au commencement, c'est le Bereshit de la Bible. Et bien sûr, on pense à la méditation des rabbins sur la lettre Bet, qui est la deuxième lettre, hein, il manque toujours l'aleph, et Dieu est l'aleph. Et dans le texte grec, vous avez un imparfait, l'imparfait qui est justement. Qui n'est pas parfait, qui n'est pas achevé, qui est le temps de Dieu, comme vous avez ici, la parole existait déjà, au commencement était le Verbe, donc le Verbe est du côté de l'aleph, au fond, il est avant l'entrée dans la dualité, avant l'entrée dans le multiple. Avec la lettre bête, avec Bereshit, avec le commencement, on entre, on est projeté déjà dans le multiple, et donc dans le monde, c'est pour ça que c'est quand même un petit peu... C'est un texte métissé quand même, mais il y a quand même des références un peu platoniciennes. Mais le but, c'est de ne pas en rester là, effectivement, et de faire une synthèse, une fusion géniale, d'ailleurs, oui. Parce que là, on est dans l'interculturel, vraiment, dans ce qu'il a de plus élevé entre la pensée hébraïque et la pensée grecque. Alors, beaucoup de gens ont essayé de trouver un plan à ce prologue, qui est assez, assez sémitique hein, dans sa forme concentrique, sa forme inclusive. Vous avez effectivement au centre, alors c'est ce que le père Boimard, je ne sais pas si vous connaissez le père Boimard, qui est décédé, qui avait réalisé une synopse absolument gigantesque, donc une concordance de tous les textes du Nouveau Testament. Et le père Boimard proposait une structure effectivement en inclusion avec au milieu le verset 12. Certains l'ont reçu et ont cru en lui, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Donc ça met très bien en exergue, parce que le plus important dans la pensée hébraïque est toujours au centre, hein. C'est pas comme nous dans nos dissertations où le plus important est au début ou à la fin. Ici, c'est toujours au centre. Et donc Jean est quand même dépendant de ce mode d'exposition. Et donc ça met très bien ce prologue sous le signe de la Renaissance, comme tu l'as dit, c'est-à-dire d'une naissance nouvelle qui est offerte à celui qui croit, à celui qui entre en communion avec le Verbe de vie, avec le Christ. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé, mais j'avais un peu oublié, le texte de la rencontre avec Nicodème au chapitre 3, puisqu'il s'agit aussi, vous le savez,
La naissance.
d'une question de naissance et de renaissance. Voilà.
Mais Renaissance, ça m'ennuie un peu parce qu'on a l'impression qu'il y a un retour, quoi, en fait.
Comment faudrait-il dire?
D'une nouvelle naissance.
D'une nouvelle naissance, oui.
Ou d'une
voilà.
nouvelle création,
oui.
Mais même nouvelle, oui, c'est ça, d'une seconde, comme on dit, seconde alliance. Parce qu'on croit des fois que Nouveau Testament, ça annule le premier. Bon, alors l'Ancien Testament, bon, il est mis au rancard, et puis on a un nouveau qui remplace l'ancien. Mais non, en fait, c'est la seconde alliance.
Bien sûr, bien sûr.
Et là, c'est la seconde naissance, c'est une seconde création, une seconde étape dans la création.
Oui.
Je verrais plus ce seconde, moi,
c'est la
nouvelle.
La continuité de la naissance, en fait, c'est l'achèvement de la naissance.
Voilà, c'est ça,
oui,
l'achèvement
oui.
de la naissance.
C'est la naissance plénière.
D'ailleurs, il y a un jeu de mots là-bas dans Nicodème, hein, naître de nouveau ou naître d'en haut, parce que c'est le même. C'est quoi c'est le même. Ça peut être traduit par l'un ou l'autre, en fait. C'est quoi? C'est aner, c'est ça, non? Naître de nouveau ou naître d'en haut, c'est le même. On peut traduire l'un par l'autre, c'est anothène. Anothène, ça veut dire à la fois d'en haut et de nouveau. C'est un jeu de mots, si vous voulez.
Oui, Anna, effectivement. Oui, oui.
Ou de nouveau.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, c'est une deuxième naissance, et en même temps, c'est une naissance qui est d'en haut et pas de la chair. Donc, on a le même thème un peu ici. C'est un deuxième volume. Mais à la limite, on peut vivre aussi cela dans notre existence. On est d'abord par la chair et par le sang, on est bébé, et puis ensuite on a toute la vie pour s'ouvrir à une naissance qui est de l'ordre du spirituel, qui est de l'ordre de l'amour, qui est de l'ordre de la relation à Dieu. Donc c'est aussi une réalité que nous avons à vivre, une évolution que nous avons à vivre. Et on ne peut pas dire que la première naissance soit mauvaise ou inutile. Pour l'instant, quelqu'un qui n'est pas né, qui n'a pas le support de la chair et du sang, ne risque pas d'être... ni au service, ni en prière. Donc, en tout cas pour ce monde. Donc, c'est, oui, un deuxième tome, peut-être. Alors, oui, sur le plan, toujours.
Oui, sur le plan, effectivement, si on considère que le verset 12 est bien au centre, ce qui est tout à fait... qui est l'objet d'un consensus, hein, c'est pas seulement une lubie du père Boimard, il y aurait une descente, hein, vous voyez, on part du monde de Dieu, on descend vers l'histoire, vers l'homme, et puis une remontée à la fin, le Fils unique qui est Dieu demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître, vous voyez, donc c'est une structure assez classique, hein. Une descente et puis une remontée. Alors dans ce cas, du coup, vous voyez que le verset 11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli, intervient avant l'incarnation, hein, qui est au verset 14. Et le Verbe s'est fait chair, c'est au verset 14. Donc il est venu dans le monde et les siens ne l'ont pas reçu, il ne faut donc plus l'entendre tout à fait comme un refus du peuple juif de reconnaître la messianité de Jésus, puisque quand même la première étape de de son identité, c'était de la messianité. Il n'avait pas d'autre mot. Hein, les Juifs, pour parler du Christ, ils n'avaient pas d'autre mot que le mot Messie et l'attente messianique. Ils n'avaient pas tout ce vocabulaire qui est grec. Les disciples ne parlaient pas du Logos, etc. Mais vous voyez, donc, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. C'est plutôt l'idée qu'il y a eu des semences du Logos, comme disaient les pères de l'Église. Ça vient bien de là. Clément d'Alexandrie parlera du Logos qui est épars dans toute la première alliance. Et donc, il est fait allusion ici au prophétisme et au don de la loi. Le Logos, c'est-à-dire le sens, la parole qui a du sens, la parole qui tient l'univers, la parole active, elle a déjà été prononcée. On n'a pas attendu Jésus. Ce n'est pas le message, ce n'est pas la prédication évangélique du Christ pendant son ministère public qui va être le Logos, enfin révélé, dévoilé et audible. Non, le Logos, la parole de Dieu, la parole créatrice dont parlait mon confrère, Marc, cette parole, elle a déjà retenti à travers les prophètes, à travers le don de la loi, etc. Donc il y a eu du Logos sans cesse, au fond. Hein. Et on voit que Jean le Baptiste, d'ailleurs, est mis du côté du prophétisme. Il est mis du côté de cette ancienne alliance. Hein. C'est là, dès les textes de Saint Jean. Jean le Baptiste, un homme appelé Jean, etc., est bien mis du côté du Logos aussi, mais d'un Logos qui n'a pas été accueilli. Voilà.
Oui, mais pas vrai. Oui.
Donc,
oui.
Y a, je veux dire, on n'est pas dans une chronologie de la grossesse de Marie. L'incarnation ne concerne pas uniquement l'événement de la naissance. C'est la reconnaissance par les disciples, oui, au cours de la vie de Jésus, de sa mission.
C'est-à-dire Marie, c'est effectivement le verset 14. Et puis c'est aussi, si vous voulez, à mon avis, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est le verset 12 quand même. Marie, c'est le verset 12. Hein. C'est-à-dire que à ceux qui ont foi... Alors il y a plein de choses qu'il faudrait peut-être approfondir. Par exemple, ceux qui croient en son nom, le croire, là, on pense que c'est la croyance. Mais ce n'est pas le verbe de la connaissance. Ce n'est pas le verbe de réception d'une révélation, si vous voulez, d'un texte d'une connaissance. Non, c'est la foi. C'est la confiance, c'est la recherche, c'est l'attente, c'est l'espérance, si vous voulez. C'est une foi qui n'exclut, auquel le doute ne pose aucun problème. Au contraire, parce que c'est celui qui ne doute pas, il n'est pas dans la recherche, il n'est pas dans la relation, parce qu'il est complètement sûr de tenir Dieu. Alors pourquoi encore l'écouter, finalement, dans un sens? Donc là, c'est au contraire, c'est la confiance. Et la confiance, ben, c'est le oui de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors que voilà, et c'est pas, et on le voit bien d'ailleurs dans la discussion de Marie, dans l'évangile selon Luc. Elle ne croit pas au sens de la croyance. Elle dit, mais comment c'est possible, ça peut pas arriver, machin. Donc elle discute et elle ergote. Donc, et c'est bien ça qui l'a fait cheminer. Donc
on n'est pas dans la doxa, on est dans la pistis, c'est-à-dire dans la confiance, qui est toujours un peu, comment on pourrait dire, un peu
dynamique, un peu, donc qui est dans le dialogue, qui est dans le débat, qui est dans le...
Oui, tout à fait, un peu à tâtons, un peu...
Mais par définition, parce que cette parole, si c'est une parole créatrice, c'est bien ce qui est dit, ça injecte du neuf. Donc le neuf, on dit, mais forcément, il y a une déstabilisation, c'est... On dit, mais comment c'est possible? Mais on n'a jamais vu ça. Et oui, bien sûr. Par définition, c'est du neuf. C'est une injection de quelque chose qui est inouï. Donc forcément, il y a un sursaut. C'est le cas même de Jésus à Gethsémané, si vous voulez. Il dit, mais non, mais ça ne peut pas être comme ça. Mais pourquoi donc? Je verrai les choses autrement. Donc vous voyez, c'est pas... Cette foi, c'est pas l'absence, c'est pas la croyance béate. C'est le dialogue, un dialogue dans lequel on s'explique. C'est une recherche. Si on ne croit plus en Dieu, si on le sent plus, c'est l'espérer et le prier. Voilà. Elle a donné, Alors là, la traduction est vraiment terrible. Elle a donné le droit de devenir, comme si c'était un tampon sur un visa, quoi, vous voyez. Et là, ce n'est pas le droit, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est quand même inouï, si vous voulez. On a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, quoi. C'est quand même quelque chose qui nous est donné, et ça, c'est quand même absolument inouï. C'est quoi ?
Oui, au verset 10, hein. 13, pardon. Au verset 10, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, c'est-à-dire de façon biologique ou raciale ou par patrilinéarité. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est-à-dire par ambition ou par, recherche purement identitaire
ou même philosophique.
C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Donc effectivement, on est quand même dans une pensée de la grâce, hein. C'est-à-dire que ce qu'il faut, le rôle dévolu à l'homme, c'est d'accueillir cette vie nouvelle, c'est d'être dans les dispositions qui lui permettront d'accueillir cette vie nouvelle et de renaître vraiment. Parce que, évidemment, dans la quête philosophique de l'époque, surtout à une époque aussi effervescente que le 1er siècle, la divinisation passait, dans les cultes orientaux en particulier, la divinisation reposait sur les efforts de l'homme, des rites, sur une ascèse. On n'imagine pas à quel point la vie philosophique était souvent religieuse, d'ailleurs, hein. Les platoniciens avaient une vie ascétique, religieuse, ritualisée. Et donc, on voit bien que les évangiles essaient de lutter sans cesse contre cette tendance. C'est un peu aussi ce que découvrent les mages dans l'évangile de Matthieu, au fond, dont la quête personnelle, philosophique, scientifique, politique peut-être, puisqu'on en a fait des rois, vient finalement confesser son impuissance devant l'enfant, devant la chair qui, dans son opacité, transmet quelque chose de Dieu. Et du coup, toutes les tentatives d'auto-divinisation qu'on retrouvera à la Renaissance, hein, avec le néo-paganisme au XVIe siècle, etc., tout ça, finalement, on voit bien que les évangiles sont écrits avec ça en ligne de mire. Hein, cette tendance de l'homme, tendance très élitiste que va flatter la gnose, de s'auto-diviniser. Et du coup, la gloire dont il est question ici, puisque c'est très frappant, la gloire n'est pas tellement le rayonnement d'un prestige ou d'un pouvoir. Ça n'est pas tout à fait la gloria latine ou la doxa grecque ou la kabod hébraïque. C'est une gloire qui repose en fait sur la filiation de Jésus avec le Père. Et c'est ça sa gloire. Et cette filiation a été l'objet d'une épreuve. Elle a été éprouvée par les apôtres qui en ont saisi quelque chose. Et à la fin du 1er siècle, 50 ans après les événements de la Pâque du Christ, on aboutit à ce type de synthèse qui est, à mon avis, le point culminant, à savoir que la gloire qui est révélée, la gloire qui est dévoilée, c'est l'intimité de Jésus comme fils avec le Dieu d'Israël, avec le Père. Et c'est cette intimité qui est une communion de vie où ils sont distincts l'un de l'autre, comme le Logos est distinct de Dieu. Vous voyez, le Logos est tourné vers Dieu, il est auprès de Dieu, le Verbe est auprès de Dieu, la parole est auprès de Dieu. Ils sont distincts, mais ils ne sont pas séparables. Et oui, je pense que c'est ça la gloire.
Je sais pas, la gloire, ça peut être la kabod hébraïque, c'est-à-dire cette présence de Dieu voilà, vraiment au cœur de son peuple, comme la nuée ardente qui est capable de justement de donner une libération à son peuple, de lui donner ce dynamisme finalement. Et donc ce serait l'efficacité réelle, quoi, l'efficacité réelle de la parole de Dieu en Christ. On pourrait voir dans la première partie, mais ça peut se retrouver chez Paul aussi. L'idée que Dieu a essayé vraiment de donner sa lumière, de donner sa parole tout au long de l'histoire, mais que finalement, ça n'a pas trop marché comme ça. Et que finalement, la vraie puissance, la vraie gloire de Dieu, c'est un autre nom finalement, pour la parole de Dieu ou pour le Saint-Esprit finalement. La gloire de Dieu les accompagnait, les Hébreux, dans le désert. C'est la Shekinah qui accompagne Dieu, qui accompagne la présence même de Dieu qui accompagne les Hébreux. Cette Shekinah, en Jésus-Christ, elle va finalement être efficace quoi, pour susciter cette nouvelle dimension de l'humain, finalement, peut-être, pour la rendre possible, ou la rendre effectivement réelle, pour une fois, la rendre actuelle, l'actualiser.
Pour aller dans ton sens, il y a le fameux jeu de mots. Quand Jean dit « le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous », en grec, c'est « il a planté sa tente. Oui. Et la tente, c'est skéné, c'est la scène, en fait. Il a planté sa scène, et du coup, il y a un jeu de mots, le verbe skénoo ressemble un peu au verbe chakan, qui est le verbe de la Shekinah, justement, de la présence. Donc, quand on dit « il a habité parmi nous », c'est pour dire que le lieu de la demeure de Dieu parmi les hommes, pour reprendre une autre expression johannique, qu'on trouvera dans l'Apocalypse, « voici le lieu de la demeure de Dieu parmi les hommes », la vraie demeure, la vraie tente, la tente de la rencontre, la vraie Shekinah, la vraie scène, au fond, la scène primitive, c'est le corps de Jésus. Ça, c'est... Ah oui. Je pense que... Alors, du coup, moi, je continue quand même sur mon histoire de gloire, parce que je pense que Jean est très visuel, comme ce qui est typique aussi des gens marqués par la pensée grecque. Ils sont plus visuels qu'auditifs, alors que le monde juif est plus auditif, la foi vient de l'écoute, etc. Et là, on sent qu'on est toujours dans le compromis un peu entre les deux. Mais Saint Jean, l'évangile de Jean a inspiré beaucoup d'icônes et on est quand même dans des images très frappantes. Et moi, j'y repensais cette semaine en lisant un extrait des récits du pèlerin russe. Vous voyez, les récits du pèlerin russe, c'est un pèlerin au 19e qui a lu la Philokalie,
qui répète toujours la même prière.
Qui répète, voilà, la prière du cœur, etc. Et à un moment, il a tellement prié le Logos, justement, qu'il voit tout ce qui l'entoure, la nature, la campagne, les arbres, il les voit autrement. Et donc, c'est une expérience psycho-physiologique où tout lui apparaît plus animé. Il ne voit plus des choses séparées, des phénomènes séparés, mais il voit justement un lien. C'est aussi ça le logos. C'est ce qui tient les choses ensemble. C'est le desmos qui tient tout ensemble. Et il voit tout comme plus présent, plus intense. Et je me suis dit, enfin, c'est peut-être complètement une élucubration personnelle, mais je vous la transmets, on est entre nous. Je me suis dit que l'expérience de la transfiguration était de cet ordre-là. Tout d'un coup, en Jésus, il le voit autrement. Et c'est cette gloire qui apparaît, cette gloire qui rayonne sur lui. C'est précisément parce qu'ils sont entrés dans une compréhension plus grande, plus profonde, plus vaste du réel. Ils ne voient plus un réel multiple, séparé, mortifère, qui se décompose, qui tombe en miettes. Mais tout d'un coup, voilà, dans la figure de Jésus, il y a une icône de la gloire de Dieu. Oh là là.
Ben oui, non, mais c'est ça.
Et ils veulent planter une tente en plus.
Mais oui, ils veulent planter une tente aussi.
Oui.
Ben oui, non, tout à fait. Mais tu dis que le verbe est à côté de Dieu, je ne sais pas, parce que dans
pros.
Le verset 1,
oui,
mais pros, si vous voulez, c'est le lamed hébreu, et c'est des fois traduit par simplement était Dieu, quoi, finalement. Appartient à Dieu, voilà. Appartient à Dieu, c'est pas forcément à côté de, parce que si vous voulez, si on le met à côté de, ensuite on met le verbe était Dieu, ça devient compliqué quand même. Ça devient compliqué. Et puis si on met le verbe à côté de Dieu, la parole éternelle de Dieu à côté de Dieu, on n'est pas loin quand même du dithéisme. C'est-à-dire que déjà il y a deux puissances transcendantes, si vous voulez, qui existent. Il y a la parole de Dieu qui n'est pas Dieu et il y a Dieu à côté. Si vous voulez, on est quand même limite, moi je trouve.
Dans ce que vous avez lu, j'ai pu l'entendre en face de Dieu.
Tourner vers Dieu.
Tourner vers Dieu.
Orienté vers Dieu, oui.
Bon, ça paraît franchement bizarre. Parce que Prof, on l'a, par exemple, j'ai trouvé dans...
On traduit souvent tourner vers Dieu, hein. Oui.
Romains 15, 17. Hein. Romains 15, 17, il y a le même prostonteon. Hein. Et on ne peut pas le traduire tourner vers, hein, si vous voulez. Mais c'est, on le sait, c'est un hébraïsme. J'aurais dû chercher dans, les Septante, justement, dans l'Ancien Testament, quand est-ce qu'il y a pros. Mais moi, j'ai regardé un tout petit peu, et ça traduit toujours le lamed hébreu, qui veut dire, finalement, qui peut signifier l'appartenance. Hein, Romains 15, 17. Il y a le proston théon aussi. Donc, Paul dit, j'ai donc la fierté en Christ Jésus pour ce qui concerne les choses de Dieu, quoi. Hein? Ta proston théon. Donc, les choses proston théon. Ce n'est pas les choses tournées vers Dieu, c'est les choses en ce qui concerne Dieu, les choses de Dieu, quoi. Quoi?
Ça, c'est l'église, c'est pas mal.
Oui, ça appartient, ça voudrait dire quoi? Bon, donc si vous voulez, moi ça me paraît quand même plus clair, parce qu'à ce moment-là, il y a une identification entre Dieu et son acte créateur, ça me semble logique, si vous voulez, à ce moment-là. Au commencement était le dynamisme créateur de Dieu, ce dynamisme créateur appartenait à Dieu, et ce dynamisme créateur était Dieu. Bon, je veux dire, on est dans le pur monothéisme, c'est clair. Il y a une identification entre Dieu et son acte créateur, ce qui me semble intéressant, d'autant plus que cet acte de création de Dieu, il se fait justement par le verbe. C'est peut-être mieux que par la parole, parce que la parole, c'est un objet.
Bon, verbe. Jean-Yves Leloup traduit au commencement le logos. Le logos est vers Dieu. Le logos est Dieu. Mais bon, ça, c'est Leloup, il est un peu... Bon.
Bon, enfin bon, de toute façon, c'est discutable, je suis d'accord. Mais cela dit, je ne comprends pas ce que ça voudrait dire. Et moi, je me méfie quand même d'aller mettre, une autre réalité transcendante, active, à côté de Dieu qui ne serait pas Dieu, quoi. Alors, je veux dire, comment on peut penser logiquement quelque chose? Toto est tourné vers Titi, mais Toto est Titi, je veux dire. C'est...
Toute la pensée trinitaire vient quand même de ça, hein. Parce que la Sophia qui danse et qui réjouit Dieu, etc. On est d'accord que ça peut être un dithéisme, mais
chez les Juifs, ça devient
limite.
C'est
pour ça que Philon en fait une espèce de Dieu. Bah oui. Ça ne va pas.
Bah c'est limite. Je trouve effectivement c'est limite. Et là, je crois que c'est la traduction qui est plus inspirée justement de cette personnification de la sagesse qu'on peut trouver chez les Hébreux ou qu'on peut trouver chez les Grecs ou chez un Philon. On peut avoir trace là dans les traductions, mais pas forcément dans le texte même, où je verrais, moi, clairement, du monothéisme strict. Sauf que, c'est quand même intéressant de dire Dieu est dynamisme créateur. C'est pas inintéressant, parce que, si vous voulez, ça dit déjà quelque chose. Ensuite, de dire que la parole de Dieu, c'est comme une lumière. Ça non plus, c'est pas inintéressant, parce que, en particulier, effectivement, c'est ce que je disais, c'est que c'est la parole créatrice, c'est pas la parole de révélation, c'est pas le contenu théologique et moral. Mais justement, c'est la lumière, c'est ce qui donne l'autonomie, c'est, si vous voulez, c'est le, comme je disais, la révélation théologique et morale, c'est comme un poisson qui donne à manger pour aujourd'hui, mais... La lumière, c'est la canne à pêche qui donne à manger toute sa vie. Parce que celui qui a la lumière, ben, il voit clair. On n'a pas besoin de lui dire de lui mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il voit qu'il y a une bouche d'égout devant sur le trottoir, ben, il fait le tour. On n'a pas besoin de lui dire, au bout de 42 pas, tu fais un pas à droite, et s'il ne le fait pas, il tombe dans le trou. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est quand on voit clair, ben, après on se dépatouille pour faire son chemin, un bon chemin. Donc, c'est intéressant de dire que la parole de Dieu... est lumière, en fait. Dans la Genèse, la lumière, elle est créée par la parole. Donc, on peut se dire, la lumière crée la parole, elle donne du sens, il y a une mise en lumière au début, mais après, elle peut changer d'avis, cette parole, elle peut créer autre chose, à la limite. Là, la parole n'est que lumière. c'est quand même, je trouve, la vraie lumière, une lumière de vérité, une lumière de foi, une lumière de fidélité. Parce que le terme de vrai ici, de vérité, si vous voulez, la vraie lumière au verset 9, ou la vérité, la grâce et la grâce et la vérité du verset 14. Cette vérité, c'est la vérité de la foi, en fait. Parce que c'est pas la vérité du dogme. Hein. C'est la vérité. Le dogme est plus un fruit de la foi, mais c'est pas la foi. Cette vérité-là, c'est une vérité de relation, c'est une vérité de recherche. Ce qui fait que le Christ, quand sur la croix, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pas une vérité au sens où Dieu l'aurait abandonné. Donc c'est pas la vérité factuelle, mais c'est une vérité de relation, parce que même quand il se met à douter de la bonté de Dieu et de l'accompagnement que Dieu lui donne, il reste dans une relation à Dieu. Donc il est dans une vérité au sens de la foi, et pas au sens du fait ou de la pensée. Et donc,
c'est-à-dire que, oui, mais c'est une unité de relation,
oui,
qui n'est pas fusionnelle ou indifférenciée. Oui. Parce que ça, c'était aussi une tentation de la gnose. Hein. Or, on voit bien qu'en maintenant deux réalités, en nommant deux fois, on cherche à penser une unité de relation qui soit l'amour. Et qui ne soit pas Dieu et le Verbe, etc.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire qu'on distingue pour pouvoir penser l'amour, parce que pour qu'il y ait de l'amour, il ne peut pas y avoir de fusion ou d'indifférenciation ou d'oubli, parce qu'on entre là dans l'histoire, donc il n'y a plus d'oubli. On n'est plus dans les cultes orgiaques où il s'agit de s'oublier, dans les cultes orphiques, où il faut perdre son unité individuelle, singulière, où il faut être comme dans le dionysisme, hein, où il faut s'éclater d'une certaine manière. Ici, quand même, il y a une relation
entre Dieu et l'homme.
Ce que la théologie va appeler des personnes.
Là, il n'y a pas marqué que Dieu aime le Verbe. Il y a marqué que Dieu est le Verbe. Ouais. Alors ensuite, effectivement, la question, c'est que bon, c'est Tertullien au IIe siècle, je sais pas, il est né en 150, ce bonhomme. Donc c'est la fin du IIe siècle. Je crois que ça marche pas, ça.
Non, mais c'est dans la tête.
La fin du IIe siècle, Tertullien, il commence à dire que le Verbe éternel de Dieu, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui invente ça. Et progressivement, ça va se développer, effectivement, cette histoire de Trinité. À la fin du deuxième siècle, peut-être le troisième, ça commence. Hein.
Oui, mais j'ai moins de problèmes que toi avec la Trinité.
Pardon ?
Puis ça commence avec le concile de Nicée, quand on essaie de clarifier qui est le Christ, alors qu'on ne sait plus s'il est nestorien, réaliste.
Ça commence un peu avant le concile de Nicée, ça commence au cours du troisième siècle, ça va se cristalliser au concile de Nicée. Mais c'est Tertullien qui commence à dire effectivement que le Verbe de Dieu est Fils de Dieu. Mais on n'a jamais dit que Jésus, finalement, est la deuxième personne de la Trinité.
Ah non !
Surtout pas.
Non, non.
Mais c'est ce que pensent que les chrétiens dans la rue pensent qu'ils doivent croire que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. C'est-à-dire que Jésus est Dieu qui marche avec ses sandales. Mais c'est jamais ce qu'a dit la théologie. Jamais une seconde.
Je cherche les termes qu'utilise la théologie. Il est le suppôt de la deuxième personne. Voilà, il est l'incarnation de la deuxième personne.
Il est fils de Dieu.
Non, parce qu'il est fils de Dieu. Oui, mais le problème, c'est que notre brave Tertullien, quand il a commencé à dire...
Pas les chrétiens.
Comment ?
C'est les musulmans qui disent ça.
Non, fils de Dieu ?
Non.
Bah, c'est ne serait-ce que l'évangile, déjà.
Bah, oui, bien sûr.
L'évangile du début jusqu'à là.
Bien sûr.
Dans le concile de Nicée,
oui,
les pères conciliaires ont relevé dans les écritures canons de l'époque 3700 expressions disant que le Christ est fils de Dieu.
Oui,
c'est
oui,
à
oui.
partir de là que le Christ a commencé à prendre vraiment sa qualité pleine divine, et que l'arianisme, qui en faisait un être supérieur à l'homme et inférieur à Dieu, a été condamné, que le nestorianisme, qui avait déjà été condamné avant, a été définitivement, croyait-on, éliminé, alors qu'en fait, il est reparti et est devenu dominant au Moyen-Orient. Et ensuite, le monophysisme également a disparu à l'époque. Mmh. Donc, c'est à ce moment-là, avec cette décision...
Ça, c'est Chalcédoine, c'est un siècle après Nicée. C'est,
on a amorcé le problème de la Trinité. Parce que justement, le problème de Nicée, c'est qu'il n'a pas défini le Saint-Esprit, qui lui est apparu avec Constantinople sous Théodose, et ensuite s'est développé jusqu'à la fameuse querelle du filioque et de la rupture avec les orthodoxes. Mmh.
Mais l'expression « fils de Dieu » qui est dans le Nouveau Testament n'est pas reprise par la théologie, parce que Dieu, pour les chrétiens, est trinitaire. Et donc, Jésus n'est pas le fils de la Trinité.
Pour certains chrétiens, Dieu est trinitaire.
Oui. Non, mais pour la pensée, on va dire, du premier millénaire, telle qu'elle s'est structurée. Et donc, il est l'incarnation du Fils dans la Trinité. Bon, on va pas.
Oui, non, mais c'est ça la question. Bon. Mais ça, c'est important, la distinction.
C'est à Nicée qu'on dit vrai Dieu et vrai homme.
Oui, mais c'est ça la question.
C'est là que démarre le.
Mais c'est ça la foi orthodoxe. C'est ça la foi orthodoxe.
C'est la foi qui a été majoritaire dans l'Église et qui a cherché à éliminer tous ceux qui ne pensent pas comme ça de l'Église. Alors, cela dit, c'était un peu l'idée impérialiste de Rome, de Constantin plutôt, de l'empereur.
Parce que Rome était arianiste. Il est resté arien. Il est mort baptisé par Eusèbe de Nicomédie dans l'arianisme. Et en plus, le pape n'est pas intervenu pour supprimer les évêques ariens. C'est Constantin qui a commencé à vouloir remplacer les évêques ariens par des évêques
orthodoxes occidentales.
Ouais. Non, mais il faut qu'on revienne peut-être à notre prologue. C'est-à-dire que, en tout cas, là... La parole de Dieu, donc... alors, ils ont mis « s'est fait chair », je ne sais pas ce qu'ils mettent dans la traduction là, mais 14... Hein.
« Est devenu un homme ».
C'est quand même mieux que ce qu'est dans la Tobe, où il y a marqué « s'est fait chair », alors que... Là, il y a marqué... « est devenu », c'est quand même plus précis, quand même. Mm-hmm. Oui, il n'y a pas un acte...
Il entre dans le devenir.
Voilà, oui. Parce que de toute façon, Dieu reste Dieu. Dieu ne peut pas se faire autre chose que Dieu, finalement. Ce serait quand même un peu étrange, en fait. Je ne sais pas. Hein. Et alors, la question, c'est qu'on peut s'imaginer, si vous voulez, que le verbe de Dieu, c'est-à-dire le dynamisme créateur de Dieu, on pourrait dire, il est habillé avec de la viande, si vous voulez. Mais ce n'est pas ça, en fait. Hein, je ne pense pas. Hein. C'est-à-dire que... on dirait il prend chair, c'est-à-dire que il est, c'est la totalité de la personne finalement, à mon avis, qui devient dans une communion profonde avec Dieu. Je crois que c'est plutôt ça, en fait. C'est plutôt ça. C'est-à-dire c'est Dieu présent à l'intérieur de l'homme. C'est ce que disait Jérôme en disant il est plus proche de nous que notre carotide, que notre sang. Donc c'est Dieu qui devient, je veux dire, participant à toutes les dimensions de la personne humaine. Oui. Je ne sais pas comment dire, non.
Et il faut bien voir que autant bassard dans la langue hébraïque, donc la chair, que sarx dans la langue grecque, c'est vraiment très péjoratif d'une certaine manière. Parce que nous, finalement, nous sommes héritiers quand même d'une pensée de l'incarnation. Donc pour nous, la chair, même après des siècles un peu répressifs, avec le péché de chair, etc. Enfin, la chair, on peut quand même entrevoir le mot chair, le verbe s'est fait chair, on peut entrevoir ça quand même de manière assez, assez belle. Il faut bien voir que pour un auditeur de l'époque, c'est très très dur à imaginer, parce que la chair, finalement, c'est le vide, c'est ce que Chouraki appelle presque la buée quand il parle du rien. C'est le rien, la chair, c'est le rien. C'est-à-dire qu'au fond, ce que dit cette page d'évangile, c'est que quand nous faisons l'expérience du rien, pas de la nada de Saint Jean de la Croix, hein, qu'on fête cette semaine d'ailleurs, pas le néant de Maître Eckhart, mais le rien dans nos vies, l'ennui, c'est précisément là que c'est ça que le verbe choisit pour se manifester.
C'est pour les
pour
Grecs,
se faire connaître.
C'est pour les Grecs que la chair serait le rien.
Pour les Grecs, c'est rien du tout, effectivement. Oui. Mais aussi, Bassard, c'est pas très. C'est quand même le monde du devenir, c'est le monde de l'instabilité, c'est le monde de. On dit fragilité, mais c'est pire que ça, de la corruption, de la corruptibilité.
Mais je sais pas comment.
Donc, oui, mais il ne peut pas y avoir de. Ni le Dieu d'Israël, ni le Dieu des platoniciens ne peut se reconnaître là-dedans. L'idée qu'au fond, on fait une expérience de Dieu quand on est au plus vide et au plus mal et au plus... Alors, je pensais à Lacan, là. Peut-être François va nous dire... parce qu'il a une phrase sur, le, sur l'incarnation du Verbe que vous m'avez cité. Au fond, que le Verbe se soit incarné, ça c'est... c'est pas Lacan qui disait ça. Au fond, il s'est toujours incarné, mais que le Verbe se soit fait chair... Comment
Il y a une phrase à propos de la résurrection,
mais d'accord.
De toute façon, des résurrections, on en a vu partout.
Oui.
Celle-là, en particulier, qu'elle a été annoncée par les prophètes et qu'elle est dans les Écritures. Et c'est ça qui a fait ça, et toutes les autres résurrections des dieux et des mythologies.
D'accord. D'accord, je pensais, alors je confonds, d'accord.
Moi, je pensais quand même à tous les prophètes en disant, voilà, toute chair connaîtra que je suis l'Éternel. Donc, il y a quand même déjà dans les prophètes, les grands prophètes, l'idée que toute chair, c'est-à-dire toute personne humaine dans la chair, vraiment est faite pour connaître l'Éternel et connaître avec la profondeur, pas simplement connaître, tiens, je sais que Dieu existe, mais une connaissance intime de relation. Et je crois qu'on le voit là aussi quand on dit, voilà, fils de l'homme. Hein. Jésus qui est appelé fils de l'homme, où est-ce qu'on a ça fils de l'homme, on a ça dans ce texte, quelque part. Quand on dit que Jésus est fils de l'homme, ça se voit fréquemment hein, dans les évangiles. Ça peut faire référence au Christ chez Daniel, etc. Mais c'est d'abord le fils de l'homme, dans ce contexte de la culture de l'époque, c'est fils d'Adam, c'est-à-dire c'est fils de la poussière du sol. C'est dans la dimension très terrestre, terrienne de l'humain, pas seulement dans... je pense que là, il y a quand même... on est dans cette, je pense, dans cette anthropologie hébraïque... la chair, elle est noble, la chair, la personne complète, finalement, la personne humaine. Hein.
Oui, mais elle est inachevée, elle est...
C'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu la lumière, elle n'a pas reçu le Verbe, et dans ce sens, il lui manque ce dynamisme créateur au cœur même de sa chair, justement. Et donc, elle est incomplète, comment dire, elle est préhumaine. Elle est préhumaine.
Oui, on l'avait vu la dernière fois, c'était, on avait fait une anthologie des occurrences du mot, la dernière séance. C'était la voix de toute chair, donc qui apparaît dans la Genèse, qui apparaît dans les psaumes. Toute chair verra Dieu, etc. Mais effectivement, c'est pas omniprésent. Hein.
Non, mais... Mais...
On lit Nicodème, peut-être
Voyons voir quelle heure est-il. 21h14. On peut lire Nicodème,
Baptiste,
ou la fin le fin du Baptiste, ou qu'est-ce que vous préférez?
Comme tu veux.
Si ce n'est quand même le verset 18, est quand même intéressant dans le prologue, à mon avis. Assez ambigu aussi. Personne n'a jamais vu Dieu, ça on est d'accord. Bon. Ensuite, Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. C'est pas très très clair, si. Alors ça dépend comment on place les virgules, comment on peut lire ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Moi je mettrais Dieu virgule, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Voilà. Alors c'est vrai qu'ensuite dans les traductions, l'idée de la Trinité, ils ont été très contents de mettre Dieu Fils unique en un seul mot, quoi. C'est discutable. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que, si vous voulez, ce qui révèle le Père, c'est le Fils dans le sein du Père. C'est ce que tu disais, c'est ce que m'a fait penser à ce que tu disais au début, c'est qu'effectivement, là où on a vraiment la révélation du Verbe de Dieu, j'allais dire, en Christ, c'est pas tellement dans l'Évangile qui va débiter avec sa bouche, dans ses actes, où, bon, bien que aussi, d'accord, mais c'est peut-être, selon Jean, particulièrement dans le fait qu'il est encore sans cesse un peu enfanté par Dieu, finalement. Hein, c'est-à-dire que il va évoluer. Il évolue quand le Christ évolue. Et peut-être que Jean particulièrement met ça en valeur, c'est-à-dire le Christ dans le sein du Père, le Christ en train de devenir de plus en plus humain. Alors on peut le voir, par exemple, dès le chapitre 2 de Jean, quand Marie pousse Jésus à agir. Il dit, mais alors, fais ton job de Messie, quoi, je veux dire. Vas-y. Il dit, mais c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Il dit, bah vas-y quand même. On le voit quand il refuse d'être roi. Et que, je dirais, il est quand même pris d'un moment de vertige et il se sauve tout seul, il va sur la montagne et il prie tout seul. Et donc là, on sent le Jésus qui devient Christ, finalement, j'allais dire. Qui devient le Jésus qui se laisse enfanter, le Fils qui est dans le sein du Père.
Le monogène, comme on dit.
Le monogène, voilà. Oui. Il y a d'autres moments, par exemple, des moments où, comme tu disais, où on le voit pleurer son ami Lazare, ou pleurer sur le jeune homme riche, ou on le voit quand il interroge les disciples en disant « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Ça peut être pour les tester, ça peut être pour l'apprendre lui-même, pour... c'est quand même... enfin, je sais pas. En tout cas, moi, ça me touche de dire que c'est celui qui nous dévoile le Père, c'est le Fils unique en train de se faire enfanter par le Père. Je trouve ça assez touchant. Mais voilà. Sinon, ben, peut-être, comment on fait ? On lit la fin ce qu'on a marqué là sur le début. Ou vous préférez un petit peu de Jean 3 ?
Nicodème, c'est beau parce que Nicodème, c'est une nouvelle naissance, précisément.
Allez, Nicodème, oui.
Où on s'aperçoit que le monogène en lui-même, ça n'a rien à nous dire si ça ne nous concerne pas. C'est ça qui est beau, d'ailleurs, dans tout ce prologue. Cette histoire d'origine, c'est bien qu'il s'agit aussi de notre origine à nous. Faire un peu d'exégèse spirituelle pour une fois, mais voilà, nous sommes quand même sans cesse ramenés à l'histoire de notre origine. Quel visage avions-nous avant notre naissance, enfin, pour parler de façon un peu poétique, cette proximité avec l'origine que nous portons en nous et que le divertissement sans cesse éloigne. Mais au fond, nous confronter à l'origine. Au fond, bon, on a fêté l'Immaculée Conception la semaine dernière. Qu'est-ce que ça a d'autre comme sens que précisément la question de l'origine ? Pour moi, c'est ça, c'est une méditation sur l'origine, où on découvre que l'origine se perd dans quelque chose qui est au-delà de notre expérience. C'est pour ça, probablement, que dans l'Évangile de Jean, il y a sans cesse des images. Il parle de l'eau vive, mais l'eau vive, c'est plus que l'eau, mais c'est quand même l'eau. Le pain de vie, c'est plus que du pain, mais c'est le pain. Je suis la lumière du monde, alors c'est comme la lumière, mais c'est plus que la lumière. C'est une lumière qui fera la lumière, qui vous fera venir à la lumière.
Et
en Dieu, il n'y a plus d'ombre, etc. Il n'y a pas jusqu'au temps, le temps lui-même est sacralisé. Quand on parle de l'heure de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est quand même ça. C'est ça qui fascinait, Bérulle était fasciné par ça, parce qu'effectivement, c'est un évangile, comme disait Clément d'Alexandrie, un évangile spirituel, et qui ne parle que de choses très concrètes et très, très matérielles. Donc ça n'est pas un traité de théologie, et c'est pas seulement la biographie de Jésus. C'est toujours les deux, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il, sans cesse, on tient le divin et l'humain, et on ne les sépare jamais.
Ça, t'as raison, parce que là, on va le voir dans ce texte, on va lire rapidement, mais... Au milieu, il parle du royaume de Dieu, il parle de... Hein, et puis il dit, mais en fait, je vous parle de choses qui sont concrètes, en fait. Hein, je vous parle de choses qui sont concrètes. Quand je vous mettrai à parler du ciel, là, vous rigolerez moins. Là, non, il dit, c'est des choses qui sont concrètes, qui nous concernent. Et donc, c'est tout à fait comme tu dis, Je vois ce que c'est le truc, mais on va le voir en passant. Hein. Donc, on
quelqu'un peut lire oui.
Nous lire le Jésus, chapitre 3, là.
Une dame ou...
Ah.
Allez-y.
Ah, merci.
Jésus lui répondit : Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème lui demanda : Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit : Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'esprit de Dieu. Alors Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses ? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent tout à jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière.
On voit clairement que ses actions viennent de Dieu, ou c'est le chapitre 3.
Afin que ses œuvres soient manifestées et qu'elles ont été accomplies en Dieu.
C'est ça ? D'accord. Que ses œuvres soient manifestées, oui, c'est ça, qu'elles viennent à la lumière.
Que ses œuvres soient manifestées, oui. Et elles qui ont été accomplies en Dieu.
Voilà. Voilà, excusez-nous. Alors, ici, vous voyez, on a une des premières occurrences du monde. Hein, on parlait de la chair jusqu'à présent, et maintenant, on a le monde. Je disais que la chair, chez saint Paul, avait des connotations un peu morales. Ici, chez saint Jean, c'est le monde. Au fond, le monde chez saint Jean, c'est un peu la chair chez saint Paul. C'est-à-dire, la chair chez Paul, c'est la chair qui se rebelle, qui veut être indépendante, qui veut se couper de Dieu, qui refuse de reconnaître son origine en Dieu. Et le monde, chez Jean, c'est ça aussi. C'est le monde qui s'obstine, enfin, qui se refuse, qui cherche à mettre son identité dans son autonomie et qui, effectivement, est une puissance de refus de Dieu.
Et le monde, c'est Olam, c'est peut-être un peu plus que la planète. C'est plutôt l'histoire, je vais dire, non ? Je ne sais pas.
Oui, c'est le siècle, comme on dit, hein,
c'est le
Aion, donc le Seculum.
C'est l'histoire. C'est
oui.
Voilà. Non, je pense.
Il y a une dimension, de toute façon, à la fois spatiale et temporelle.
Et mondaine.
Voilà. Alors, lorsque Jésus dit « nous », avant le fameux verset 16, hein, « vous ne me croyez pas », etc., « nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage ». Alors, il faut probablement voir ici une trace des querelles théologiques de la fin du 1er siècle, c'est-à-dire c'est la grande église qui, enfin, les milieux johanniques se sont ralliés à la grande église, c'est-à-dire l'église de Pierre, et en revanche, cette église est excommuniée par la synagogue. Donc il y a un conflit entre la synagogue et l'église, donc qui est tout à fait net ici, si on est en 90 à peu près. Voilà, le nous et le vous, qui est très clivant, hein, qui peut être un peu gênant d'ailleurs, parce qu'on a un côté très communautariste chez Saint Jean. Il n'y a pas que cet aspect-là, mais il y a toujours nous. Alors, c'est pas vive nous, mais c'est quand même nous face à un monde hostile, hein. Le monde qui ne nous aime pas, etc. On a déjà les échos, de, bien sûr, de la fin de l'évangile, à savoir les paroles de Jésus au cours du dernier repas, où vous avez cette dialectique de Dieu et du monde. Alors, de manière qui prend des accents lyriques extraordinaires.
Alors là, on voit le fils d'Adam, donc effectivement, au verset 13. Et puis, bon, le verset, un des versets les plus connus de la Bible, c'est effectivement le verset 16, quoi. Dieu, en effet, a tant aimé le monde. Mais justement, tant aimé le monde, c'est aussi, c'est pas négatif contre le monde. C'est, voilà, Dieu aime cette histoire de l'humanité, cette humanité voilà, qui pourtant refuse, voilà, qu'il a donné son fils unique, son fils son unique, oui, pour que... Alors, voilà, quiconque, que tout homme qui croit en lui, donc c'est encore le verbe de la foi, bien entendu, hein, c'est qui, voilà, qui se tourne vers lui, et la vie éternelle. Alors la vie éternelle, bon, c'est pas la vie éternelle au sens de la durée, c'est la vie, les aionion, je ne sais pas comment c'est, éternel, c'est plus la vie éternelle au sens qualitatif du terme, si vous voulez, hein, évidemment. Ce qui ne disqualifie pas aussi la durée au-delà de notre temporalité, mais quand même, c'est plutôt l'idée. Alors après, donc là, je trouve que c'est intéressant, parce que si vous voulez, c'est vrai que dans la théologie, des fois, chrétienne, on a trop dit... Celui qui croit, à ce moment-là, Dieu peut l'aimer, le pardonner, il est au bénéfice d'une sorte de sombre calcul vénal où le Fils paye, etc. Non, il y a l'amour de Dieu est premier. Et puis finalement, le rôle du Christ, eh bien, c'est de manifester quelque chose pour qui peut nous... Le lieu du salut, c'est plutôt l'homme qui se met à croire, c'est l'homme qui se tourne vers Dieu, qui s'ouvre à Dieu. C'est pas Dieu qui tout d'un coup se débloque pour pouvoir nous accepter ou tamponner notre visa. Alors on voit un peu mieux dans la suite comment ça peut marcher, parce qu'il y a marqué, où est-ce que c'est ? On voit plus clairement l'histoire d'aimer la vérité. Voilà, la question, c'est effectivement... Croire en lui ou croire par lui, c'est aimer la lumière, finalement. Hein. C'est ce qu'on voit dans le verset d'après.
Venir à la lumière.
19, venir à la lumière, préférer l'obscurité à la lumière. Donc c'est ça la question, finalement. C'est aimer cette lumière, aimer ce dynamisme créateur. C'est l'espérer, l'attendre, faire place... c'est ça finalement la question, et c'est ça qu'apporte le Christ, de manifester cela dans sa chair, cet amour de Dieu pour le monde, cet amour de Dieu pour notre parcours, notre devenir, hein. Voilà. Alors le jugement, là on le voit, le jugement, c'est pas un jugement pour compter les bons points, les mauvais points. Non, c'est un jugement de fait. Ce qui est déjà vivant, c'est vivant, et ce qui n'est pas vivant, c'est pas vivant. C'est ça, finalement, le jugement. C'est pas un... Bon, je vais vous compter les bons points, vous désolé, vous avez 9,8 de moyenne, donc là, dégagez. C'est pas ça. C'est... Et j'ai l'impression que, vous voyez, c'est pas la personne qui croit ou ne croit pas. C'est plutôt ceux qui croient dans la personne, ceux qui est dans ce dynamisme créateur, ceux qui est ouvert, ceux qui espèrent, ceux qui cherchent Dieu, dans tout l'homme. Il est déjà dans la vie. Il est animé de ce souffle. Il est animé, et donc il est vivant, il est vivant. Il est vivant maintenant d'une véritable qualité de vie, d'une qualité qui est source de vie. Et alors il est vivant. Ce qui est dans les ténèbres, c'est pas jugé négativement, c'est pas éliminé, c'est pas une histoire de gagner des mauvais points ou je sais pas quoi. Ben, c'est mort, c'est mort. Je veux dire, c'est mort, ben, donc ça sera pas vivant. Vous voyez, je trouve ça sympa. Vous voyez, il n'y a pas l'idée de, justement, ce que tu disais par rapport au karma ou je sais pas quoi, ou dans d'autres religions. Où on est mort de trouille devant Dieu en disant mais il va me compter mes mauvais points, et puis c'est pas du tout la question. La question, c'est d'être vivant, c'est qu'il y a une vie avant la mort, quoi. C'est ça la question.
Voilà, ben je crois que comme nous sommes dans les jours préparatoires à la fête de Noël, je pense que ces textes nous invitent aussi peut-être à croire davantage au sens joannique. Donc peut-être à faire notre deuil d'une science du croire, mais croire davantage, c'est-à-dire mettre notre confiance en celui que nous avons envie de connaître de façon plus intime. Et quand nous lisons ces textes, au fond, c'est ça que nous cherchons à faire vivre et à faire toucher. Le verbe de vie, c'est donner à toucher, dit saint Jean. Donc puissions-nous connaître mieux et croire mieux en celui qui s'est présenté comme le vivant et qui nous rend vivants à sa suite. Voilà, très belle fête de Noël, très bonne fin du temps de l'Avent.
Et on se retrouve le 13 janvier, donc pour ce groupe biblique.
À l'Oratoire du Louvre.